VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à toutes et à tous, le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du vendredi 30 septembre 2022, en direct de Washington, Idrissa Seloudia. Pour commencer, les titres. Au Mali, une délégation de la CDAO discute du sort des 46 soldats ivoiriens détenus dans ce pays avec le chef de la junte, le colonel Assimi Goïta. Au Sénégal, le président Macky Sall parle d'amnistie et ébranle la scène politique. Au Nigeria, 4 candidats à la présidentielle de février s'engagent pour la paix civile. En Russie, le président Vladimir Poutine compte annexer officiellement aujourd'hui 4 régions ukrainiennes. Des villes dévastées, des millions de personnes sans électricité et surtout un bilan humain qui pourrait être substantiel. Conséquence du passage de l'ouragan Ian en Floride. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. La mission de haut niveau de la CDAO s'est rendue hier à Bamako où elle a rencontré le colonel Assimi Goïta, chef de la junte au pouvoir, pour tenter de dénouer l'affaire des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali depuis le 10 juillet. Rien n'a filtré de leurs 2 heures de discussion, nous dit notre correspondant à Bamako, Mohamed Danyoko.
Après plus de 2 heures d'échange à huis clos avec le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, Nana Akufo-Addo du Ghana et Adama Barrow de la Gambie sont sortis les visages fermés. La déclaration à la presse qui était prévue dans le programme n'a pas eu lieu. Ni le président ghanéen, ni son homologue gambien n'ont voulu se prononcer au micro des journalistes qui ont pourtant fait le pied de grue pendant toute la durée de leur entretien. Ce qui laisse présager des résultats de cette mission qui visait à régler l'affaire des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali depuis le 10 juillet. Les présidents Macky Sall du Sénégal et Fornia Singbe du Togo, médiateurs dans cette crise, devaient tous les deux faire partie de cette délégation mais n'ont pas fait le déplacement. Ce qui annonce des complications quant à l'issue de cette affaire qui empoisonne les relations entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako.
À noter que, selon l'AFP, des progrès semblent avoir été accomplis vers une libération des 46 soldats ivoiriens. Les choses vont s'arranger par la volonté de Dieu, a dit un haut responsable malien à un correspondant de l'agence de presse sous le couvert de l'anonymat. Il a évoqué les efforts de différents intervenants et ajouté « Nous n'allons pas les décevoir ». La délégation arrivée vers midi est donc repartie en fin d'après-midi sans faire de déclaration. Cela ne veut pas dire que c'est un échec. Les Maliens ont été très compréhensifs, a dit encore à l'AFP, une source proche de la délégation, sous couvert d'anonymat. Attaché à sa souveraineté, le Mali reste ouvert au dialogue, a pour sa part dit le chef de la junte sur les réseaux sociaux. Au Sénégal, le président Macky Sall a ébranlé la scène politique en mettant sur la table une amnistie, initiative largement interprétée comme une manœuvre pour fracturer une opposition revigorée en vue de la présidentielle de 2024. Le geste est vu comme annonçant le probable retour au premier plan de Khalifa Sall et Karim Wade, qu'il ne laisserait donc pas la voie dégagée à Ousmane Sonko, chef de file actuel de l'opposition. Messieurs Sall et Wade ont vu leur trajectoire abruptement interrompue par des condamnations qu'ils dénoncent comme un complot. L'amnistie brandie par le président Sall conforte ceux qui pensent qu'il briguera un troisième mandat en 2024, rapporte l'AFP. Interrogé sur les plans de M. Sall, la présidence n'a pas répondu. Au Nigeria, 4 des principaux candidats à l'élection présidentielle de février prochain se sont engagés hier à ne pas promouvoir la violence au cours des 5 mois de campagne. Le point avec Abdourahmane Dia.
Le candidat du principal parti d'opposition, le Parti démocratique populaire, Atiku Abubakar, le candidat du Parti travailliste, Peter Obi, et le candidat du New Nigerian People's Party, Rabiu Kouansouasso, ont tous les trois signé un pacte de paix lors d'une cérémonie à Abuja. Le candidat du parti au pouvoir, APC, Bola Ahmed Tinubu, n'était pas présent à la cérémonie, mais son colistier a paraphé le document en son nom. Mahmoud Yakubu, le président de la Commission électorale nationale indépendante, a déclaré que l'engagement en faveur d'une campagne électorale pacifique et axée sur les problèmes devrait résonner au-delà des candidats à la présidence. Il ne suffit pas de signer l'accord de paix. Ce qui est le plus important, c'est de respecter sa lettre et son esprit, a-t-il ajouté. Le Comité national de la paix, une initiative privée rassemblant des responsables religieux, traditionnels et d'opinion, est à l'origine de ce pacte. Il appelle les candidats à promouvoir une campagne pacifique. En 2011, plus de 800 personnes ont été tuées dans des violences post-électorales dans le pays.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président russe Vladimir Poutine va formaliser aujourd'hui à Moscou l'annexion par la Russie de 4 régions ukrainiennes. Kiev et ses alliés occidentaux dénoncent des référendums d'annexion et de saisie de terres. Le point avec Eric Manirakidza.
Les responsables installés par Moscou dans les régions de Donetsk et Lugansk, Zaporizhia et de Kherson sont déjà à Moscou. Une cérémonie est prévue à 12h en temps universel. La circulation automobile sera interdite dans une grande partie du centre-ville, alors qu'un concert sera organisé près du Kremlin. Vladimir Poutine prononcera à cette occasion un discours volumineux pour formaliser l'annexion. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a de son côté convoqué pour aujourd'hui une réunion d'urgence de son conseil de sécurité. Kiev réclame à ses alliés plus d'armes pour continuer sa contre-offensive. Les États-Unis et l'Albanie préparent une résolution condamnant les référendums. Le texte sera présenté au Conseil de sécurité de l'ONU. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, parle d'une dangereuse escalade. Le chef de la diplomatie américaine a réitéré que les États-Unis ne reconnaîtront jamais ces annexions de territoire en violation du droit international et qui vont à l'encontre de la paix et la sécurité mondiale. Washington et ses alliés occidentaux examinent de nouvelles sanctions contre la Russie. En Russie, la mobilisation de centaines de milliers de réservistes se poursuit, tout comme l'exode massif de dizaines de milliers de personnes qui craignent d'être envoyées au front.
Dévastation en Floride jeudi après le passage de l'ouragan Ian qui a laissé dans son sillage des villes ravagées et un bilan humain potentiellement substantiel. L'ouragan se dirige à présent vers le sud-est des États-Unis. Rosine Munezero.
Rétrogradé en tempête tropicale après son passage sur les terres, Ian s'est de nouveau renforcé au point d'être recatégorisé en ouragan par le Centre national des ouragans. Ian filait jeudi en fin de journée vers la Caroline du Nord, la Caroline du Sud et la Géorgie. Cela pourrait être l'ouragan le plus meurtrier de l'histoire de la Floride, a dit le président américain Joe Biden lors d'une visite des locaux de l'agence fédérale qui lutte contre les catastrophes naturelles, la FEMA. Les chiffres ne sont pas encore clairs, mais nous recevons de premières informations faisant état de pertes humaines qui pourraient être substantielles, a-t-il ajouté, assurant vouloir se rendre dès que possible dans l'État du Sud, mais aussi sur le territoire américain de Porto Rico, il meurtrit récemment par l'ouragan Fiona. Lors d'une conférence de presse jeudi soir, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a indiqué s'attendre à un certain nombre de morts en raison de l'ouragan. Plus de 700 sauvetages confirmés ont eu lieu et il y en aura sûrement bien plus davantage de données arriveront, a également déclaré le gouverneur.
Nous allons nous en prendre aux célébrités qui ont soufflé sur les braises des émeutes, a déclaré hier le gouverneur de la province de Téhéran. L'Iran a intensifié ainsi jeudi la pression sur des célébrités et des journalistes sur fond d'une vague de manifestations déclenchée par la mort d'une jeune femme, Mahsa Amini, quelques jours après son arrestation par la police des mœurs pour violation du strict code vestimentaire en Iran. La répression de ce mouvement de contestation a fait des dizaines de morts depuis mi-septembre, suscitant de nombreuses condamnations à l'étranger. Des cinéastes, des athlètes, des musiciens et des acteurs iraniens ont exprimé leur solidarité avec les manifestants, y compris l'équipe nationale de football, dont les joueurs ont porté des survêtements noirs pendant les hymnes interprétés avant un match à Vienne contre le Sénégal. La Minute Éco, Claire Morin-Gibourg.
En Côte d'Ivoire, le gouvernement a ratifié un accord de près de 200 millions d'euros avec l'AFD pour réhabiliter les routes de l'axe Ouangolo-Dougou-Burkina Faso et Ouangolo-Dougou-Mali, un itinéraire de 100 km. Le projet intègre aussi la réhabilitation de pistes et la construction de ponts dans ces zones rurales. La ville ivoirienne d'Ouangolo-Dougou est au carrefour des routes qui desservent le Burkina Faso et le Mali. C'est un point stratégique pour la mobilité et les échanges transfrontaliers avec ses pays voisins privés d'accès à la mer. Le Sénégal va bénéficier d'une deuxième usine de dessalement d'eau de mer après le lancement des travaux de celle des Mamelles près de Dakar en août dernier. La société saoudienne Aqua Power vient de signer un mémorandum d'entente avec la Société nationale des eaux du Sénégal pour sa construction sur la Grande Côte, située à 40 km au nord de la capitale. Ce projet est le premier du genre dans la sous-région, effectué en mode partenariat public-privé dans le domaine de l'hydraulique. L'Allemagne va débloquer jusqu'à 200 milliards d'euros supplémentaires pour plafonner les prix du gaz et de l'électricité qui plombent son économie. Dans le sillage de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'UE est confrontée à une crise énergétique sans précédent depuis 50 ans qui n'épargne aucun pays.
Merci Claire. Les sports à présent avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Contrat rompu entre Youssef Belaïli et Brest.
Oui, c'est le club de l'Algérien qui en a fait l'annonce. Le contrat du joueur, qui avait été prolongé d'un an cet été, a été résilié à sa demande, a précisé le stade brestois. Arrivé en janvier à Brest, Youssef Belaïli a par moments été brillant sur le terrain, mais n'a jamais été à son aise en Bretagne. Youssef ressentait un mal-être au quotidien en étant notamment éloigné de sa famille. Il lui était donc difficile de continuer sur cette voie, a expliqué le directeur sportif Grégory Lorenzi, rejetant des affaires d'ordre privé comme annoncé dans les médias locaux ces derniers jours. Selon ces médias, Belaïli a laissé pour 30 000 à 50 000 euros de dégâts dans la maison de location où il logeait la saison dernière et s'est illustré par une série de retards ainsi qu'un état de forme pas toujours au top. Parti la semaine dernière pour rejoindre la sélection algérienne, Belaïli ne reviendra donc pas à Brest.
Feu vert pour la chambre de compensation de la FIFA à Paris.
La FIFA a annoncé avoir obtenu l'accord des autorités réglementaires françaises pour installer à Paris sa future chambre de compensation. Cette dernière sera chargée de centraliser les paiements aux clubs formateurs en cas de transfert, un enjeu représentant plusieurs centaines de millions d'euros par an. La création d'une chambre de compensation pour les transactions entre clubs s'inscrit dans une réforme plus large du marché des transferts en cours d'adoption qui inclut le rétablissement d'une licence d'agent et un encadrement de leur commission. Selon la FIFA, une grande partie de la rétribution prévue pour les clubs formateurs leur échappe faute de centralisation de ces transactions. L'instance estime à près de 400 millions de dollars le montant qui devrait leur être distribué chaque année. Ils ne perçoivent actuellement qu'environ 70 à 80 millions de dollars selon la FIFA.
Basketball, les demi-finales du mondial féminin se disputent ce vendredi.
Pour la première fois depuis 28 ans, les demi-finales du mondial féminin de basket se jouent sans l'Europe. Elles mettront aux prises à Sydney le Canada aux États-Unis dans un choc entre voisins avant Australie-Chine. Coïncidence ou non, c'est déjà l'Australie qui accueillait la compétition en 1994 lorsqu'aucune équipe du vieux continent n'était parvenue à atteindre le dernier carré. 28 ans plus tard, si le Canada a remplacé le Brésil, les trois autres participants sont les mêmes, à commencer par les États-Unis qui visent un quatrième titre de rang.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Burkina Faso, malgré son interdiction, une manifestation a été organisée hier matin à Bobo-Dioulasso par plusieurs centaines de personnes pour exiger la démission du président de la transition, le colonel Paul-Henri Damiba. Les manifestants lui ont reproché de ne pas être à la hauteur du défi sécuritaire qui mine le pays. La manifestation fait suite à l'attaque du convoi de Djibo lundi dernier par des hommes armés.
Magasins et stations-service fermés, place publique sous blocus des forces de police et de gendarmerie, Bobo-Dioulasso a été sous haute tension jeudi matin suite à l'appel à manifester des organisations de la société civile. Damiba dégage, ont scandé des manifestants motorisés qui ont sillonné les grandes artères de la ville au son des sifflets, klaxons et autres vuvuzelas. Mohamed Lamine Sarko, dans un boubou blanc, exprime son indignation.
C'est pas bon, moi je n'apprécie pas, c'est pas bon. La gouvernance n'est pas bon. Voilà, c'est pas ce que nous on a souhaité. Il faut qu'il change. Si ça continue comme ça, nous ne pouvons pas accepter. Puisque le Burkina appartient à nous tous. Voilà, le Burkina appartient à nous tous, on ne peut pas accepter. Quand c'est pas bon, il faut dire que c'est pas bon. Donc,
Salif Nikima, mains et lèvres tremblantes.
Les producteurs ont fui les zones agricoles. Qu'est-ce qu'on deviendra? La ville est pleine de déplacés qui vivent dans la misère et dorment sur les boulevards. Damiba doit dégager.
À Raoul Silla d'ajouter.
Tout est devenu cher. Et non content de ça, ce sont les civils qui meurent chaque jour. Nous ne voulons plus de Damiba, c'est tout.
La manifestation a pris fin par un affrontement entre forces de l'ordre et manifestants lorsque ces derniers ont tenté d'assiéger la place Tifo-Amoro. Les autorités locales n'ont pas souhaité s'exprimer sur les raisons de l'interdiction de cette manifestation. Alidou Ouedraogo, Bobo-Dioulasso pour VOA Afrique.
Des informations pertinentes et fiables. C'est VOA Afrique au Mali. Musique et actualité pour tous. Sur 102 FM Bamako, 106.1 Gao et 90.3 Tombouctou.
Le colonel Abdoulaye Maïga, premier ministre par intérim du Mali, a salué ce qu'il a appelé les relations de coopération exemplaires et fructueuses avec la Russie lors de son récent discours à l'Assemblée générale des Nations unies. Il a aussi dénoncé le retrait des soldats français du Mali. L'Occident accuse Moscou de déployer en Centrafrique et au Mali des paramilitaires du groupe Wagner. Que peut-on espérer de la Russie dans la lutte contre le terrorisme en Afrique? Eric Manirakidza a joint à Paris Sergei Girnov, ancien agent du KGB, principal service de renseignement de l'ex-Union soviétique.
Les Africains sont très naïfs quand ils voient ça, parce que en réalité, il y a une propagande russe qui marche très bien, parce que vous avez des sociétés comme Russia Today qui utilisent cette propagande pour raconter la grande Russie qui veut sauver ces pays africains. En réalité, c'est jamais le cas. Mais il y a quand même une sorte d'historique qui existe en Afrique, parce que les pays africains ont souffert d'une sorte de colonialisme de la France, en fait, des anciens pays qui avaient des colonies en Afrique. Et l'URSS, à partir de la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, a réussi une percée idéologique auprès de ces États en leur disant, voilà, nous serons derrière vous pour que vous obteniez votre indépendance et éventuellement, on va vous soutenir dans votre développement. Ça n'a jamais très très bien marché en Afrique, mais néanmoins, l'Union soviétique a obtenu une certaine présence en Afrique. Afrique. Elle a reçu aussi beaucoup d'Africains à faire des études en URSS. Donc, vous avez une sorte de population qui est russophile, qui est russophone, qui parle russe. Et donc, tout ça crée une sorte de terreau qui permet de faire développer cet amour ou cette amitié pour la Russie. Et en fait, ils sont très, très naïfs parce que quand ils vont en Russie, quand ils font les études en Russie, ils constatent sur place qu'ils sont très mal considérés par les Russes. Les Russes sont racistes et les Russes, dans beaucoup de cas, méprisent les Noirs venus d'Afrique. Mais ça, je ne sais pas pourquoi, mais les Africains ne comprennent pas, n'arrivent pas à comprendre cette dualité, ce mépris des Russes de souche. Et je crois qu'en fait, souvent, mais vous savez, il n'y a pas qu'en Afrique, il y a beaucoup de gens aussi en France, par exemple, qui n'aiment pas les États-Unis et ils croient que parce que face aux États-Unis, il y a le seul pays qui peut faire face, c'est la Russie. Je ne sais pas pourquoi ils le croient, ils croient que la Russie se soucie de leurs problèmes, va les aider, etc. Ils ne comprennent pas que Poutine n'a absolument rien à faire des problèmes des pays africains, n'a absolument rien à faire pour les aider, mais tout simplement c'est un jeu géopolitique entre les grandes puissances, la Chine, les États-Unis, l'Angleterre, la France, l'Allemagne, etc. Le Japon, l'Inde, et tout ça, c'est un jeu qui les dépasse, mais ils sont très très naïfs par rapport à ça.
Officiellement, c'est pour combattre le terrorisme et les rébellions.
Vous savez, Poutine, c'est quelqu'un qui ment en permanence, et donc la Russie de Poutine, c'est un État qui ment en permanence. Il suffit de regarder comment il mène la guerre en Ukraine, donc soi-disant, c'est pour combattre les néo-nazis qui n'existent pas en Ukraine, tandis que les gens qui combattent dans y compris chez les troupes Wagner, c'est souvent les néo-nazis russes. Et donc, il ne faut jamais prendre les déclarations de Poutine au premier degré. Donc tout ça, c'est juste pour inventer les bons prétextes. Et donc, le bon prétexte depuis 20 ans, c'est le terrorisme international. Quand on ne sait pas quel prétexte choisir, on peut choisir ce prétexte et ça donne tout de suite la possibilité de conduire des opérations spéciales. Donc, n'y croyez absolument pas. La plupart du temps, c'est juste pour conclure les affaires dans les intérêts de Poutine et de l'État de Russie et des oligarques qui sont autour de Poutine, et éventuellement avec le prétexte de combattre le terrorisme international.
Sergueï Jirnov, ancien agent du KGB, principal service de renseignement de l'ex-Union soviétique.
VOA Afrique, à Kigali, au Rwanda, sur 104.3, 24 heures sur 24.
Les rescapés du génocide au Rwanda souhaitent que le procès à la haie du Rwandais Félicien Kabuka s'accélère pour déraciner la culture de l'impunité. Ils estiment aussi que la tenue de ce procès est une victoire de la justice. Les réactions à Kigali avec notre correspondant Jean Damascène Manishimwe.
L'ouverture du procès Félicien Kabuka est pour la plupart des rescapés du génocide synonyme de la fin de l'impunité pour les suspects génocidaires. Ils se déclarent par ailleurs impatients de voir Kabuka faire face à la justice après plus de 20 ans de cavale. Comme l'indique Gide Muranga, président de Ibuka, c'est l'association des rescapés du génocide au Rwanda.
On accueille ce procès très impatiemment parce que ça faisait longtemps, vous savez. Il a fui la justice pendant 25 ans. Il a utilisé sa fortune parce que c'était un homme riche ici au Rwanda. On va avoir quelques informations qui pourront nous aider peut-être dans d'autres procès. Donc ça va vraiment nous aider à poursuivre ces présumés génocidaires.
Alain Gauthier, président du collectif des partis civils pour le Rwanda, souhaitait pour sa part que Félicien Kabuga accepte de témoigner et de donner plus d'informations sur le génocide des Tutsis au Rwanda.
J'espère que ce procès permettra d'en connaître un peu plus sur la façon dont il est arrivé en France et éventuellement de quel soutien il a pu bénéficier. Mais ce procès pour nous est un procès extrêmement important parce que c'est lui qui est considéré comme le grand financier du génocide perpétré contre les Tutsis. Moi, je suis un peu dans l'expectative, si vous voulez. Je ne suis pas optimiste au point de dire il va nous faire de grandes révélations. Maintenant, j'espère qu'il acceptera de parler et qu'il répondra aux questions qui lui seront posées, en particulier sur le rôle qu'il a joué dans ce génocide.
Même s'il a fallu attendre 28 ans pour voir l'homme d'affaires comparaître pour génocide, ce procès est pour certains perçu comme une victoire de la justice. C'est le point de vue d'Alphonse Mourefou, il est spécialiste du droit international. Ce procès démontre encore une fois la persévérance de la justice, étant donné qu'il a passé plus d'une vingtaine d'années en cavale. L'ouverture de ce procès est une victoire pour la justice et la lutte contre la culture de l'impunité. Félicien Kabuga, 87 ans, qui était un grand homme d'affaires au Rwanda jusqu'en 1994, est originaire du nord du Rwanda, comme nombreux d'autres dignitaires de l'ancien régime. Il doit répondre des crimes de génocide, d'incitation directe publique à commettre le génocide, d'entente en vue de commettre le génocide, ainsi que les crimes contre l'humanité, que sont l'extermination, l'assassinat et les persécutions, tous commis pendant le génocide des Tutsis au Rwanda en 94. Jean Damascène Manishimwe, pour VOA Afrique, Kigali.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
La Côte d'Ivoire entend répondre aux besoins d'emploi des personnes handicapées, mais elles sont peu nombreuses à trouver du travail. Pour être visible sur le marché, il y a des opportunités, mais peu en profitent. Handicap et insertion professionnelle, un reportage de Delphine Boise, notre correspondante à Abidjan.
La journée Handi-Emploi, dont la 6e édition vient de se tenir à Abidjan, a eu pour thème « Tous au travail ». Daniel Adaï-Biko, commissaire général.
Le constat est réel, les personnes en situation de handicap ont du mal à s'insérer. Mais c'est aussi des personnes qu'il faut prendre en compte dans la société. Et aussi, nous constatons que de plus en plus d'entreprises de multinationales sont ouvertes à leur insertion professionnelle.
Des panels présentés par des entreprises et ONG étaient à ce forum sur l'inclusion socio-professionnelle des personnes handicapées. Raymond Yoakoué, directrice des ressources humaines d'une banque de la place.
Depuis le Code du travail de 2015, il y a une obligation qui est faite aux entreprises de recruter un quota de personnes handicapées.
Les personnes handicapées ont déjà du mal à s'intégrer dans la vie active, mais souhaitent qu'une chance leur soit accordée. Koulibaly Nelly, présidente de l'ONG Crayon d'Espoir.
En général, toutes les personnes en situation de handicap ont vraiment de très grandes compétences et je demande aux entreprises de nous tester, d'essayer de nous donner notre chance.
Justin Dekam Oufezambi, étudiant avec un 2A en droit privé, exprime ses attentes.
Ce que j'attends de l'entreprise qui m'employera, c'est que je veux être un membre à part entière de l'entreprise et faire partie véritablement de la partie sociale.
Et cet autre handicapé physique a été recruté comme caissière par une entreprise l'année dernière à la 5e édition de Handi Emploi.
Keita Naminata, j'étais désespérée. Je ne pensais pas même qu'un jour il allait être fonctionnaire.
Le directeur général de l'emploi au ministère du Travail, Fandodo juge impérieux d'accroître le plaidoyer auprès des entreprises.
Beaucoup d'actions ont été entreprises par le gouvernement, mais il convient de maintenir toujours la sensibilisation et le plaidoyer auprès des entreprises, de sorte à faciliter leur insertion socio-professionnelle sur le marché du travail.
L'ONG Société sans barrières veut briser le cercle. Sanogo Yede Adama, le coordinateur du projet.
Aujourd'hui, on travaille le secteur de la formation professionnelle et l'emploi. Projet d'une valeur d'environ 1 milliard qui doit permettre la promotion des droits des personnes handicapées.
Moussa Diakité, handicapé physique et cordonnier depuis 25 ans, tient son magasin en bois aux abords de la voie des marchés aux deux plateaux vallons, refuse la fatalité.
C'est dur, mais ça va payer un jour. Il faut ignorer ton pied. Ce n'est pas le pied même qui fait l'homme. L'homme, tu peux avoir tous tes démons, mais si ton cerveau ne fonctionne pas, tu n'es rien.
Pour la qualité de son travail, il s'est constitué une bonne clientèle.
Il habite très bien les choses, si, d'accord.
Il fait son métier avec passion, avec amour.
Handicapé certes, mais cela ne pourra jamais signifier incapable de surmonter les nombreux obstacles de la vie. Delphine Bouise, Abidjan, VOA, Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Sebulia, à la mise en onde, Georges Léonard Sagno, à la console, Diana Kamins. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.